accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
An earthquake is the perceptible shaking of the surface of the earth, which can be violent enough to destroy major buildings and kill thousands of people.
Bonjour, il y a un peu plus d'un mois, le 6 février dernier, deux puissants séismes frappaient le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. En Turquie, où les secousses ont tué plus de 48 000 personnes et forcé près de 3,5 millions de rescapés à quitter leur province, la catastrophe a aussi rappelé la menace qui pèse sur Istanbul, la capitale économique du pays. Dans cette gigantesque ville de plus de 16 millions d'habitants, la majorité des logements ne sont pas aux normes parasismiques et pourraient être endommagés, voire détruites, si un nouveau séisme devait avoir lieu. Depuis quelques années, la mairie, dirigée par l'opposition, propose aux Stambouliotes de faire tester leur immeuble. S'ils étaient jusqu'à présent peu nombreux à en faire la demande, les séismes du 6 février ont changé la donne. À Istanbul, c'est un reportage d'Anne Andloer.
Pour s'assurer qu'un immeuble résistera à un séisme, pas le choix, il faut un peu abîmer les murs. C'est ce que font ce matin-là deux ingénieurs en bâtiment, équipés d'un marteau-piqueur et d'appareils de mesure, dans le hall d'entrée de Durmuş Uygun. Quand leur travail sera terminé, ce retraité de 58 ans saura si le béton des quatre étages de son immeuble tiendra le choc en cas de grosse secousse. Durmuş, qui occupe le rez-de-chaussée avec sa femme et leurs trois filles, a fait appel à la mairie. Ces tests sont gratuits depuis bientôt 4 ans. Mais avant les séismes du 6 février, Durmuş n'avait jamais songé à en faire la demande. La catastrophe l'a fait réfléchir. Il veut en avoir le cœur net.
Quand on regarde à l'œil nu, notre immeuble ne présente rien d'inquiétant. Mais comme dit le proverbe, mieux vaut rester éveillé que de faire des cauchemars. Alors on prend nos précautions.
Durmuş Uygun est d'autant plus prudent qu'il a déjà fait ce cauchemar une fois. Le 17 août 1999, le puissant séisme de Gölcük, dont l'épicentre était situé 100 km plus à l'est, avait tué 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul. Le logement de la famille Uygun était devenu inhabitable. Ils avaient dû vivre sous une tente pendant plus de 3 mois avant d'acheter l'appartement qu'ils occupent aujourd'hui, à 600 mètres à peine de leur ancien immeuble dans le quartier de Bağcılar.
Ce qui nous fait peur, c'est surtout le sous-sol. Depuis qu'on a emménagé, une ligne de métro a été creusée sous le quartier. Et puis on a entendu dire que le sous-sol de Bağcılar n'était pas bon. Nos filles, qui étudient à l'université, sont bien informées et sensibles à ces questions. Elles nous ont demandé de faire tester l'immeuble. Inch'Allah, il est solide. S'il ne l'est pas, il faudra se réunir avec les autres propriétaires pour réfléchir aux moyens de le renforcer.
Les séismes qui ont ravagé le sud-est de la Turquie ont rappelé aux Stambouliotes que leur mégapole, elle aussi, vivait sur une faille, la faille nord-anatolienne. Les géologues sont formels, à tout moment, cette faille peut produire une secousse de magnitude supérieure à 7. Autre certitude, la majorité des bâtiments d'Istanbul, qui en compte plus d'un million, ne sont pas aux normes parasismiques. C'est pour connaître précisément l'ampleur de la menace, pousser les habitants à en prendre conscience et surtout les pousser à agir en quittant, en renforçant ou reconstruisant leurs immeubles, que la mairie a mis en place ces tests dits « rapides ». Özlem Tut, responsable de la gestion du risque sismique et de l'amélioration urbaine.
Nous menons des tests sur 5 colonnes porteuses. D'abord, nous mesurons la résistance du béton, puis nous regardons les armatures, espacements, diamètres, traces éventuelles de corrosion. De retour au bureau, nous ajoutons à l'équation les informations dont nous disposons sur la qualité du sous-sol. Un programme informatique nous délivre une valeur qui classe le bâtiment dans une catégorie de A à E. A correspond à un faible risque, E à un risque très élevé. Lorsqu'un bâtiment est classé D ou E, nous informons les propriétaires et nous les conseillons sur ce qu'ils peuvent faire.
Jusqu'ici, faute de recevoir assez de demandes, les équipes de la mairie entraient aléatoirement dans des immeubles jugés à risque. Problème, pour tester un bâtiment, il leur faut l'autorisation d'au moins un des propriétaires. 7 fois sur 10, les habitants refusaient par crainte que l'immeuble soit détruit, alors même que ces tests n'ont qu'une valeur informative. En 3 ans et demi, la mairie n'a pu contrôler que 30 000 habitations. Mais depuis les récents séismes, plus de 130 000 stambouliotes, propriétaires et locataires, ont fait une demande en ligne. Submergés, les services municipaux donnent la priorité aux immeubles et aux quartiers considérés comme les plus fragiles. Rahmi Özer, directeur de l'atelier d'urbanisme.
Nous testons en priorité les immeubles construits avant l'année 2000 dans les arrondissements les plus proches de la faille. La moitié des 30 000 immeubles déjà testés ont été classés dans les catégories D et E les plus risquées. Cela nous montre qu'il est urgent d'améliorer le stock de bâtiments d'Istanbul face à la menace sismique. Chaque immeuble compte et il faut aller vite. Nous en sommes tout à fait conscients.
Pour l'instant, la mairie d'Istanbul ne dispose que de 50 équipes pour effectuer les tests et chaque équipe ne peut contrôler que 3 immeubles par jour. Mais des dizaines d'autres équipes sont en train d'être formées, assure Özlem Tut, la responsable municipale, qui souligne que la mairie à elle seule ne peut pas tout.
Aucune mairie n'a la mission ou les capacités d'accomplir une telle tâche. C'est quelque chose que nous devons faire en partenariat avec les ministères et les institutions concernées et avec tous les Stambouliotes. C'est le seul moyen d'accélérer les choses. Disons que nous faisons notre possible pour mettre en place cette coordination.
Avant les séismes de février, le maire Ekrem İmamoğlu, un membre de l'opposition, n'avait pas été invité aux réunions de coordination et d'évaluation des catastrophes organisées par le gouvernement et la préfecture d'Istanbul. Les responsables municipaux regrettent un manque persistant de coopération malgré les séismes récents. La préparation d'Istanbul à un tremblement de terre massif est l'un des thèmes de la campagne pour les élections du 14 mai, dans lesquelles s'affronteront âprement le pouvoir et l'opposition.
It's a brand new word for dramatic design of the future.
KBH in the building. You know what it is.
C'est une solution qui s'impose petit à petit dans le milieu de la construction. Les fondations en pieux métalliques vissées dans le sol. Véritable alternative au béton, très polluant. Ces pieux ont des avantages pour l'environnement. En France, l'entreprise Technopieux, installée en Picardie, est leader dans l'Hexagone. Et l'usine a de plus en plus de demandes, Lise Verbeck.
Technopieux est une entreprise québécoise installée depuis une vingtaine d'années en France. En 2020, elle a ouvert son usine de production de pieux dans la Somme pour être au plus près de la demande. Hubert de Francu est le responsable de l'atelier.
Parce qu'on réalise ici uniquement la fabrication des tubes, donc le coupage et le perçage des tubes, et la fabrication des platines. Seule la fabrication des hélices reste canadienne pour l'instant. Je pense que d'ici mi-2024, 100% de la production sera rapatriée ici.
Des centaines de tubes en acier sont donc transformés en pieux vissés qui permettent de faire les fondations de maisons, d'usines ou encore de bâtiments de collectivités. Pour une maison par exemple, il faut entre 15 et 22 pieux. Les clients réalisent d'abord une étude de sol, puis l'entreprise s'adapte en fonction.
Donc nous, ça c'est le travail du concessionnaire qui va dimensionner les pieux, donc la quantité, le diamètre et le diamètre de l'hélice, ainsi que la profondeur grâce à l'étude de sol. Alors nous, on a des avantages d'une part d'avoir un travail propre, parce qu'on n'a pas besoin d'amener de l'eau sur le terrain pour faire les fondations. On est indépendant au niveau des énergies, puisqu'on n'utilise ni eau ni électricité pour fonctionner. Ou tout du moins, en électricité, le peu qu'on utilise, on est indépendant grâce à des groupes électrogènes. Et donc ce qui fait qu'on a un produit qui est très doux, parce qu'il n'y a pas de vibration, ça ne crée pas de nuisance sonore. Et donc pour le voisinage, quand un voisin construit quelque chose, une maison, etc., il n'y a pas de risque d'avoir une fissuration due aux vibrations dans le terrain. Parfois même en une journée, on a le temps de faire les fondations d'une maison. Le soir, quand on est reparti, le voisin ne s'aperçoit même pas qu'on est intervenu tellement on travaille proprement.
La technique a fait ses preuves, elle est très utilisée au Québec car elle s'adapte parfaitement au sol gelé. Et en France, l'entreprise a de plus en plus de commandes car le pieu, contrairement au béton, permet de réduire l'imperméabilisation des sols. L'eau pluviale peut s'écouler plus facilement sous les maisons sur pilotis et cela permet de s'adapter au changement de nature des sols, selon Yves de Francu, le directeur.
Aujourd'hui, mine de rien, avec les aléas climatiques, par exemple la sécheresse de l'été dernier, on a beaucoup de sols qui ont bougé. Et là, les gens prennent encore plus conscience de cette importance dans leur construction de la fondation. Donc il ne s'agit plus maintenant de construire des maisons à même le sol sans se préoccuper vraiment de la fondation. Aujourd'hui, vraiment, il faut bâtir sur du solide et il faut aller chercher ce solide.
Avec la sécheresse l'été dernier, il y a eu beaucoup d'appels de propriétaires dont les maisons étaient fissurées.
On utilise ces pieux pour faire de la reprise en sous-œuvre. C'est-à-dire qu'on va, avec ces pieux, visser ces pieux autour de l'existant, s'accrocher sur l'existant pour reporter la charge de fondation de l'existant sur les pieux et permettre à ce que la maison ne bouge plus.
Et l'impact sur l'environnement est réduit, ce qui séduit les entreprises qui souhaitent s'agrandir temporairement.
Comme on le dit, on visse le pieu, donc on est capable aussi de le dévisser. Ça veut dire que, notamment dans tout ce qui est modulaire, construction ou bureau provisoire, où on est vraiment très présent là sur ce marché-là, en revanche, parce qu'on visse le pieu, on pose le modulaire, et puis si 2 ans après, il faut le démonter parce que les travaux sont finis, parce que, en tout cas, une raison X ou Y, on enlève le modulaire et on dévisse le pieu. On rend le sol à son identique. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui d'être capable de proposer cette réversibilité des choses.
Le prix séduit également les constructeurs car il est aligné, voire moins cher que les fondations en béton. L'entreprise souhaite se développer à l'export dans toute l'Europe et en particulier au Royaume-Uni.
Carottes râpées et poissons panés offerts pour tout le monde. À Londres, la cantine sera désormais gratuite pour tous les élèves d'école primaire et ce, pendant 1 an. Un coup de pouce financé par la mairie de la capitale anglaise. Et ça, Clémence Pénard, c'est une bonne nouvelle pour les petits écoliers londoniens qui étaient de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir s'offrir un repas à la cantine.
Dès la prochaine rentrée de septembre 2023, ils seront 270 000 élèves à bénéficier d'un repas quotidien et gratuit. Et pour ce faire, 130 millions de livres sterling, soit un peu plus de 146 millions d'euros, vont être mis sur la table. Ça fait partie du budget final du maire travailliste de Londres, Sadiq Khan. Une annonce qui n'est pas totalement innocente à la veille de la campagne électorale pour la mairie de Londres. Il s'agit tout de même d'une véritable bouée de sauvetage pour les familles appauvries en raison de la crise du coût de la vie en ce moment. Cette mesure devrait permettre d'économiser l'équivalent d'environ 500 euros par an et par enfant. Actuellement, en Angleterre, les repas gratuits sont réservés aux enfants dont les parents gagnent moins de 8300 euros par an après impôt. Des critères d'admissibilité qui laissent sur le carreau quelques 800 000 enfants dans le pays, selon la Food Foundation. Cela fait déjà plusieurs mois que des personnalités, comme le chanteur Zayn Malik, ancien membre des One Direction, appelle le gouvernement britannique à élargir cette distribution de repas et à copier tout simplement leurs voisins gallois ou écossais qui, eux, ont déjà introduit la gratuité universelle de la cantine dans leurs écoles. Une première étape a donc été franchie avec, pour le moment au moins, la capitale.
Merci Clémence Pénard. Chaque semaine, en partenariat avec Enter, vous nous racontez des initiatives vertueuses en Europe. La vidéo à retrouver sur leurs réseaux sociaux.
People who live around the area, like in Albania, the Vjosa is completely normal. But it's not. I think the Vjosa is the last wild and big river in whole Europe.
Autre bonne nouvelle, cette fois pour la protection de l'environnement. L'un des derniers fleuves sauvages d'Europe, la Vjosa, est devenu parc national. Une aire protégée, donc, qui remise au placard la quarantaine de projets de barrages et de centrales hydroélectriques qui menaçaient le cours d'eau et toute la biodiversité qui l'abrite, Louis Seyer.
Après plus de 10 ans de mobilisation écologiste, l'ensemble de la Vjosa vient d'être déclaré parc national par le gouvernement albanais. 400 km de rivières sont maintenant protégées et la quarantaine de projets d'hydrocentrales qui menaçaient la vallée appartiennent aujourd'hui au passé. Ulrich Eichelmann est le directeur de l'ONG Riverwatch.
C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, jamais été créé auparavant. On ne protège pas seulement une rivière ou un tronçon de rivière. Nous protégeons l'ensemble d'un système fluvial. La Vjosa, le fleuve principal, mais aussi les affluents et même les affluents des affluents.
Depuis sa source dans les montagnes grecques jusqu'à la mer Adriatique, la Vjosa coule sans obstacle ni modification humaine majeure sur 270 km. Sa vallée abrite une biodiversité exceptionnelle, 1100 espèces animales, dont 13 menacées à l'échelle mondiale. L'intérêt international autour de la Vjosa a convaincu les habitants mais aussi le gouvernement de la nécessité de préserver ce fleuve. Irma Tako est responsable d'une agence de rafting sur la Biosa. Son activité fait aujourd'hui vivre une vingtaine de familles de la vallée.
Au début, on pensait que c'était en construisant une centrale hydroélectrique qu'on allait pouvoir stimuler l'économie. Mais avec le temps, non, la plupart des gens ont compris que ce n'était pas le cas et que notre futur se ferait en respectant la nature, pas en la transformant.
Si la proclamation de ce parc national de la rivière sauvage est déjà une victoire, de nombreux défis attendent ses concepteurs. Et en premier lieu, le projet d'aéroport international que le gouvernement albanais fait construire dans le delta de la Viosa, refuge de milliers d'oiseaux migrateurs.
Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un royaume enchanté, une petite ligne de basse bien ronde.
Musique.
Musique, c'est l'heure. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Au menu aujourd'hui, la voix envoûtante de Luz Casal.
Avec une belle vitalité, la chanteuse espagnole Luz Casal entre dans la cinquième décennie d'une carrière entamée au tout début des années 80, riche d'une quinzaine d'albums qui ont fait d'elle une star en Espagne. Et au-delà, on se souvient notamment des chansons choisies par Pedro Almodovar dans son film « Talons aiguilles ». Aujourd'hui, Luz Casal publie son nouvel album « Las ventanas de mi alma », des fenêtres sur son âme, qui ouvre sur un grand nombre de styles musicaux où le rock le plus énergique côtoie la pop la plus luxuriante, avec quelques douces parenthèses où émergent parfois des touches de flamenco ou de bossa. L'ensemble est un peu inégal, mais la voix de Luz Casal y est partout impériale, comme sur la somptueuse ballade Estaba Escrito.
Estaba escrito que nosotros creceríamos destinados a querernos desde que con pocos años compartíamos los juegos. Sin previo aviso, mano a mano descubrimos fantasías de perdernos y ser cómplices de un sueño como dos amantes ciegos. Y de repente, sin saber cómo aprendimos que un instante se hace eterno. Y lo más grande, costumbre de querernos, porque el paso de los años pudo más que nuestro fuego, y sin remedio separamos los caminos sin tener miedo al infierno ni a sentirse dos extraños que se ignoran.
C'était Luz Casal sur RFI, Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr ou en podcast pour tout savoir de l'actualité européenne. À lundi.
Et le masque, là.